Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le gouvernement a échappé de peu à une motion de censure de gauche. Il s'en est fallu de deux voix. Avec Stéphane Robert, nous analyserons le climat au sein d'un PS déchiré à un an de l'élection présidentielle.
Ils ne renoncent pas à leur mobilisation contre la loi travail. Syndicats de salariés, étudiants et lycéens manifestent à nouveau. Les violences seront-elles évitées? Nous ferons un point sur la sécurité avec Wassila Guitoun.
Au Brésil, Dilma Rousseff sur le point de quitter le pouvoir. À l'issue d'interminables débats, les sénateurs devraient voter pour la procédure de destitution de la présidente.
Bilan d'une journée sanglante en Irak, au moins 94 morts à Bagdad dans 3 attentats. À la voiture piégée, le groupe État islamique qui revendique ces attaques est pourtant en difficulté dans la région.
Il n'y aura finalement pas de motion de censure de gauche contre le gouvernement après le recours au 49-3 pour faire passer la loi El Khomri. Les députés Front de Gauche, alliés aux écologistes et aux socialistes frondeurs, ont réuni 56 signatures. Il en fallait 58. L'autre motion déposée par la droite n'a aucune chance d'être adoptée, car contrairement aux députés Front de Gauche, les frondeurs socialistes ne comptent pas s'allier avec l'opposition pour faire chuter le gouvernement. Mais leur tentative d'hier rend évidente la rupture qui existe entre les frondeurs et le gouvernement, Stéphane Robert.
C'est passé tout près, à deux voix près. Ils étaient 56 députés alors qu'il en fallait 58 pour que cette motion de censure dite de gauche puisse être déposée. Si certains dans l'actuelle majorité tentaient hier de minimiser la portée de la démarche, finalement ça n'est pas si grave, expliquait-il, ils n'ont pas franchi le Rubicon. D'autres députés socialistes légitimistes se montraient eux beaucoup moins conciliants. Non mais vous vous rendez compte, ils étaient prêts à renverser le gouvernement. Ces députés-là réclamaient hier, et réclament toujours, l'exclusion des socialistes dits frondeurs du groupe PS à l'Assemblée. Il faut dire qu'on voit bien désormais que la fracture est consommée entre une gauche social-démocrate, ou plutôt social-libérale, qui reste à peu près fidèle au président, et une autre gauche, beaucoup plus orthodoxe, qui supporte, elle, de moins en moins l'idée que François Hollande puisse se représenter en 2017. Et on voit mal, au fur et à mesure que les échéances électorales, présidentielles et législatives vont se rapprocher, ce qui pourrait les réconcilier. La conséquence, c'est que Manuel Valls et son gouvernement seront de plus en plus condamnés au fil des mois à la paralysie et à l'inaction. En revanche, il y a une relative bonne nouvelle, entre guillemets, pour François Hollande. C'est que derrière ceux qui ont osé se dresser pour tenter de faire chuter le gouvernement, il n'y a aucun grand leader susceptible de constituer en interne un véritable mouvement de contestation, ni Martine Aubry, ni Henri Emmanuelli. Et ça montre que le chef de l'État n'a quasiment pas de concurrence dans la perspective d'une nouvelle candidature l'année prochaine à la présidentielle.
Et la mobilisation contre la loi travail reprend aujourd'hui à l'appel de 7 syndicats et organisations étudiantes. Après le passage en force du gouvernement, CGT, FO, FSU, Solidaires appellent avec l'UNEF, la FIDEL et l'UNL à amplifier le mouvement. Et l'on peut craindre de nouveaux débordements. Il y a l'exaspération des manifestants, il y a les casseurs qui s'infiltrent dans les cortèges et il y a les policiers surmenés. Un policier comparaît d'ailleurs aujourd'hui devant le tribunal de Paris pour violence volontaire. Une vidéo l'ayant montré en train de frapper un lycéen à Paris le 24 mars. Alors, quel est le dispositif de sécurité mis en place, Wassila Guitoun, pour éviter les incidents?
Que ce soit du côté du ministère de l'Intérieur ou du préfet de police de Paris, c'est la grande muette, sujet sensible. Aucun chiffre ne sera communiqué et aucune interview ne sera accordée. Côté syndicat de police, en revanche, on a une petite idée sur ce qu'il faudrait faire pour éviter des événements tragiques, comme ce jeune homme qui a perdu un œil lors d'une manifestation à Rennes. Nicolas Comte est secrétaire général adjoint d'unité SGP Police FO.
Il y a des moyens tels que les canons à eau qui peuvent être employés de manière extrêmement efficace en fin de manifestation, qui sont des moyens qui évite les contacts directs entre casseurs et policiers, ce qui fait qu'il y a moins de risques de blessés de part et d'autre. Ce sont des dispositifs qui existent en France, qui sont utilisés sur décision du préfet de police pour ce qui concerne Paris. Et donc pour l'instant, cette décision n'a pas été prise. Il y a peut-être une timidité dans les prises de décision, nous le constatons sur le terrain.
Un avis partagé par le syndicat Force Ouvrière, c'est le syndicat d'ailleurs à avoir répondu à nos questions. Le secrétaire général Jean-Claude Mailly accuse non pas les policiers, mais les pouvoirs publics.
Les policiers font leur boulot, mais vous savez, parfois vous avez des ordres, des contre-ordres, et c'est pas facile à gérer sur le terrain. S'il y a un dérapage, il doit être sanctionné, c'est évident, c'est comme dans tout corps de métier. Mais les policiers sont soumis à rude épreuve. Je rappelle qu'il y a eu les attentats, donc l'état d'urgence, les manifestations, demain l'Euro 2016, qui a 18 millions d'heures supplémentaires dans la police nationale qui ne sont pas payées. Donc ils font leur boulot qui n'est pas un boulot facile. Maintenant, assurer la sécurité des manifestants au-delà du cortège, ça c'est de la responsabilité des pouvoirs publics.
En deux mois de mobilisation, une centaine de manifestants ont été blessés, ainsi que 300 policiers et gendarmes.
Alors que le procès de deux Rwandais accusés de génocide se déroule depuis mardi devant la cour d'assises de Paris, on apprend que le pôle génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité du TGI de Paris est en pleine réorganisation. Installé il y a 4 ans à peine, il va perdre sa tête. Alors comment interpréter cette nouvelle, Laure de Vulpian ? Le pôle va-t-il conserver ses moyens ?
Claude Choquet, le patron des 3 juges d'instruction, s'apprête en effet à quitter l'annexe du palais de justice de la rue des Italiens pour la célèbre galerie Saint-Éloi, celle de l'antiterrorisme, qui niche dans les bâtiments historiques de l'île de la Cité. Et ce, à la faveur du départ à la retraite de Laurence Levert. Ce pôle génocide, c'est 40 dossiers à l'instruction, dont 26 concernent le Rwanda et 14 d'autres zones géographiques. Irak, Syrie, Tchad, Centrafrique, Argentine et France. Des dossiers toujours sensibles, politiquement et diplomatiquement, forcément lourds et complexes, qui nécessitent des années d'enquête. Et justement, l'idée qui avait présidé à la création de cette structure spécialisée, c'était celle d'une meilleure efficacité de la justice. Or, ce pôle était déjà considéré comme sous-dimensionné. A priori donc, il s'agit d'un mauvais coup. Mais, nous dit-on, Claude Choquet coiffera les deux entités et il sera remplacé rue des Italiens par un nouveau juge qui a une expérience auprès du tribunal spécial pour le Liban. La présidence du TGI de Paris explique que c'est le choix de la synergie entre les deux pôles, sachant qu'un certain nombre de dossiers mêlent déjà terrorisme, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Comme le dossier César, composé de 53 000 photos de cadavres horriblement torturés par des hommes du régime syrien. Des photos officielles de médecine légale qui ont opportunément fuité vers la France. Dans l'immédiat donc, pas question de fusion entre ces deux pôles, mais il y a fort à parier qu'un jour ou l'autre, le petit sera mangé par le grand.
8h07, vous écoutez France Culture, la suite du journal. Aurélie Kiefer, on se rend en Irak.
Bagdad en deuil. 3 attentats à la voiture piégée ont été perpétrés dans différents quartiers de la capitale irakienne hier. C'est l'attaque de l'État islamique la plus meurtrière depuis le début de l'année en Irak. Au moins 94 morts et 150 blessés. Une campagne qui semble vouloir faire contrepoint aux pertes territoriales subies par le califat, Arik Biagala.
Si l'État islamique recule presque partout, en Syrie ou en Irak, cela ne veut pas dire qu'il n'a plus les moyens de frapper. Mais ces offensives relèvent aujourd'hui bien davantage de l'attentat perpétré par un groupe terroriste plutôt que de l'assaut d'infanterie mené par une véritable armée. Même s'ils ont toujours conservé leur capacité de frappe bien au-delà des lignes de front qui les séparent de leurs adversaires, les djihadistes s'étaient contentés ces derniers mois de viser essentiellement des cibles militaires ou sécuritaires en Irak, des checkpoints ou des convois, à l'exception d'un double attentat en février qui avait déjà fait 73 victimes lors d'un rassemblement sportif à Bagdad. Hier, c'est l'un des marchés très fréquentés du quartier chiite de Sadr City qui a d'abord été visé, une camionnette piégée faisant explosion près d'un salon de coiffure où de futurs mariés s'apprêtaient avant leurs noces. Nombre d'entre elles font partie des plus de 50 victimes de cette première attaque. Dans l'après-midi, 2 autres attentats ont fait une 30aine de victimes supplémentaires. Là, ce sont des kamikazes qui ont fait détonner leurs gilets d'explosifs sur des barrages à l'entrée de 2 autres quartiers chiites. En visant délibérément les civils chiites, l'État islamique, qui a revendiqué les 3 attaques, s'en prend sans doute d'abord à ceux qu'il appelle des apostats, aux chiites en tant que tels, mais il cherche aussi probablement à déclencher en retour des représailles de la part de ces mêmes chiites contre d'autres civils, les sunnites de Bagdad, la logique étant que l'État islamique doit pouvoir ainsi se présenter à terme comme le seul protecteur et défenseur des sunnites du pays, ceux-là même dont le califat d'Al-Baghdadi entend faire ses sujets.
En Tunisie, une opération antiterroriste s'est soldée par la mort de 4 gendarmes hier dans la région de Tataouine. Un peu plus tôt, les forces de sécurité tunisiennes avaient tué 2 hommes présentés comme des terroristes du même groupe dans la banlieue de Tunis et procédé à 16 arrestations. Cette opération est d'une ampleur inédite depuis la réaction à l'attaque de Ben Gherdan près de la frontière libyenne il y a 2 mois. Les précisions de Justine Fontaine à Tunis.
Rien que pour cette année, le ministère de l'Intérieur affirme que les forces de l'ordre ont pris d'assaut plus de 1700 maisons soupçonnées d'abriter des terroristes et démantelé 30aine de cellules djihadistes. Le ministère n'indique pas combien de personnes ont effectivement été mises en examen par la suite. En tout cas, ces dernières semaines, plusieurs arrestations et accrochages ont encore eu lieu, notamment près de la frontière algérienne. Mais les 2 interventions d'hier sont d'une ampleur inédite depuis la réaction à l'attaque djihadiste de Ben Gherdan il y a 2 mois. D'abord par le bilan parmi les forces de l'ordre, 4 personnes tuées. Ensuite par l'usage d'une ceinture d'explosifs par l'un des hommes présenté comme un djihadiste. Enfin par le nombre de personnes potentiellement impliquées dans plusieurs régions et les armes saisies. L'été dernier, le gouvernement a lancé une nouvelle stratégie antiterroriste sans l'annoncer publiquement. Jusqu'à aujourd'hui, très peu de choses ont filtré sur son contenu et son application concrète, notamment pour améliorer le renseignement qui fait encore beaucoup défaut à la Tunisie dans ses affaires. Un aspect évoqué toutefois par le Premier ministre tunisien lors de sa visite au Maroc ces jours-ci. Habib Essid a appelé hier à la mise en place d'une stratégie antiterroriste à l'échelle du Maghreb. Il a affirmé que grâce à des renseignements algériens, la Tunisie a réussi à éviter plusieurs attaques ces derniers mois.
Le colonel Azali Assoumani est élu président des Comores. Le second tour de l'élection présidentielle avait été entaché de violence et il a fallu organiser une élection partielle hier dans 13 bureaux d'Anjouan. Au Brésil, le suspense n'est toujours pas fini. Les sénateurs brésiliens débattent depuis 17 heures maintenant. Ils devraient logiquement voter pour le processus de destitution qui doit écarter du pouvoir la présidente Dilma Rousseff pour 6 mois. Le temps de dire si les accusations de maquillage des comptes publics étaient pleinement justifiées. Un sommet contre la corruption s'ouvre aujourd'hui à Londres. 50 États doivent y participer. Le chef du gouvernement britannique s'apprête à faire des annonces. Un registre sera lancé le mois prochain dans lequel les sociétés étrangères possédant des biens immobiliers en Grande-Bretagne seront obligées de divulguer ce qu'elles possèdent effectivement. La Lettonie a fait le ménage dans son système bancaire, un système soupçonné de blanchir de l'argent sale de l'ex-URSS. C'était une étape nécessaire pour se faire accepter par l'OCDE et c'est fait depuis hier. Le pays balte est le 35e membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. L'adhésion de Riga sera signée lors d'une cérémonie officielle à Paris le 2 juin, Bruno Caden.
La Lettonie a basé une partie de son économie sur le système bancaire. Profitant de sa position géographique, à la fois dans l'Union européenne, la zone euro et Schengen, et à la frontière russe, avec une forte communauté russophone sur son sol, la Lettonie était devenue le paradis bancaire de nombreux citoyens et entreprises de l'ex-URSS. La moitié des 26 banques commerciales enregistrées en Lettonie travaillent essentiellement pour une clientèle russe et ex-soviétique. Si pour certains, la Lettonie était le meilleur moyen de mettre ses économies à l'abri d'un raid de régimes autoritaires. Pour d'autres, en particulier des groupes mafieux, Riga était une grande blanchisserie d'argent sale. Pour rejoindre l'OCDE, la Lettonie a donc dû faire le ménage. Le gouvernement du vert Maris Kuchinskis a même fermé le mois dernier une banque soupçonnée de blanchiment d'argent sale en provenance de ses voisins de l'Est. Un coup de balai qui ne fait d'ailleurs que commencer, car d'autres banques lettonnes ont été citées dans le scandale du détournement $1 milliard au détriment du gouvernement moldave ou de l'affaire Magnitsky, du nom d'un avocat fiscaliste russe mort en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur des détournements de fonds. Après 3 ans de négociations, cette adhésion à l'OCDE va aussi permettre à Riga de bénéficier d'expertise en matière d'éducation, de santé, d'emploi ou de lutte contre la corruption et les inégalités.
C'est un mouvement social sans précédent dans les prisons en Belgique. Les agents pénitentiaires du sud du pays ont entamé leur 3e semaine de grève. En cause, une réforme de leurs conditions de travail et une baisse des effectifs. Avec plus de 80% de grévistes, l'État a dû envoyer des militaires dans les prisons pour assurer un service minimum auprès des détenus. Sorties, douches, repas ou visites sont en effet devenues très aléatoires. Les prisons sont vétustes et surpeuplées et la Belgique affiche l'une des surpopulations carcérales les plus importantes d'Europe, juste après la Hongrie. À Bruxelles, le reportage de Lax Milot.
Devant la prison de Forêt, en région bruxelloise, une trentaine de grévistes dénoncent le projet de réforme du ministre de la Justice. Il compliquera encore plus la tâche des gardiens de prison, selon eux. Marjorie Guizet est assistante surveillante pénitentiaire.
Qui dit mois de personnel dit mois de disponibilité et surtout, c'est se retrouver seul à gérer des grosses sections. Plus de travail en moins de temps, clairement, c'est non.
La prison de Forêt est connue pour sa vétusté, Marjorie Guizet.
Il y a des rats, il y a des cafards, il y a des souris, mais je vais dire, au bout d'autant d'années, on a pris l'habitude. Nous, ça fait partie de notre quotidien. C'est pas normal.
Les conditions de détention se sont dégradées avec le mouvement de grève. Les personnes incarcérées ne peuvent plus se laver, manger 3 fois par jour, ni recevoir de visites, y compris de leur avocat. Pour ce détenu en permission de sortie, la situation est invivable.
En fait, ils ne donnent plus d'espoir. Ils les attendent socialement quand il n'y a plus de réinsertion.
Je suis d'accord. Les gens, ils ont commis des bêtises, ils sont là pour payer. Mais dans des conditions dignes d'un être humain, de droit d'homme, il n'y a pas, tout est bafoué ici en Belgique.
L'État belge a déjà été condamné 4 fois ces derniers jours pour violation des droits des détenus. L'un des plaignants a obtenu hier le versement d'une astreinte de 1 500 € par jour et par infraction relevée.
Feu vert donné à l'union civile homosexuelle en Italie. Les députés ont adopté le texte à une très large majorité, offrant pour la première fois dans le pays un statut aux personnes de même sexe. La météo, de la pluie matin, midi et soir, sauf en bord de Méditerranée. Il fera cet après-midi 13 degrés à Cherbourg comme à Lyon, 17 degrés à Paris, 19 à Toulouse, Guillaume Erner.